Objectif municipal. Les candidats aux élections locales des 15 et 22 mars 2026 face aux journalistes de nos rédactions.
Et nous recevons aujourd'hui au micro des radios associatives du Limousin en Haute-Vienne, Marie Deferluc. Marie Deferluc, bonjour.
Bonjour.
Alors vous allez être interviewée donc par votre serviteur, mais également par Lucie Alix qui vous a préparé un petit portrait.
Alors d'abord bonjour.
Bonjour.
Et ensuite voici le portrait que j'ai pu préparer avec les informations que j'ai trouvées. Marie Deferluc est candidate aux élections municipales de Limoges pour la deuxième fois. L'enseignante de lettres agrégée au collège Anatole Français à l'IUT s'est déjà présentée en 2020. Marie Deferluc se lance à nouveau dans la course à la mairie de Limoges, forte de 6 années d'échanges. En effet, l'association propose des tables rondes qui réunissent limougeaux et spécialistes sur divers sujets. Parmi ceux abordés sur les dernières années, nous pouvons retrouver la sécurité, l'accès aux soins, les transports ou encore la valorisation de la culture locale. En 2020, un nouveau printemps pour Limoges avait remporté 4% des suffrages exprimés. En 2026, la liste citoyenne veut passer la barre des 5%. Son but est d'apporter la garantie d'être écoutée à ceux qui la composent.
Marie Deferluc, au-delà d'être écoutée par vos concurrents, à cette nouvelle municipale de Limoges. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec justement la mairie sortante? Est-ce que vous avez pu, au cours des années passées, faire remonter des infos qui ont été prises en compte? Parce que c'est vrai que on parle beaucoup de démocratie participative, d'élus qui veulent faire vivre la démocratie participative, mais malheureusement, souvent, on est dans le domaine de l'incantation et peu dans le domaine de la réalisation.
Alors, les choses qu'on avait pu faire remonter, c'était en fait au tout début de l'actuelle mandature, donc celle qui s'achève, lorsque on avait essayé de porter le plus loin possible notre idée de conseil municipal citoyen. Et donc, on avait soumis cette idée. Au maire sortant, qui avait dit je reprends ça, et puis
pas du tout,
et puis il a fait quelque chose, mais enfin il nous a pas demandé notre avis sur la façon de le faire. Donc on a fourni une idée, ce qui a été mis en place ne correspond pas à l'idée qu'on en avait. Donc
vous parlez des conseils de quartier?
Non, je parle pas des conseils de quartier, je parle de ce que nous appelions nous le conseil municipal citoyen et de ce que le maire actuel appelle les 55 citoyens pour leur ville. Et qui ne reprend pas du tout, comme on l'avait imaginé, le projet qu'on avait, nous, imaginé à l'époque.
Alors, je suppose que tout le travail intellectuel que vous avez fait sur le précédent mandat, il a servi à élaborer un programme, et il a servi aussi à attirer un certain nombre de personnalités sur votre liste. Est-ce que vous avez, au fil de l'eau, au fil des années, agrégé de nouvelles personnalités qui sont venues renforcer cette liste? Et comment se compose-t-elle en fait aujourd'hui?
Alors, c'est intéressant que vous parliez de cette notion-là de personnalité qui, moi, m'interpelle toujours un petit peu dans le monde politique, parce que c'est ce que disent beaucoup d'autres des candidats actuels sur leur liste et la composition de leur liste. Oui, je veux les meilleurs profils, oui, je veux des personnalités et tout.
Et certains parlent de bonne prise d'ailleurs.
Oui, alors bien sûr, mais enfin, pour moi, une bonne prise, c'est
surtout
un
dans
citoyen.
Le camp d'en face,
ouais. Pour moi, une bonne prise, c'est un citoyen. Qui est engagé. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est forcément extrêmement connu sur la place de Limoges. On a besoin en revanche d'avoir une personne qui est déterminée, d'avoir une personne qui ne s'en laissera pas compter selon ce que tel ou tel va lui dire. Donc à la quête de personnalité, moi je préfère dire la quête de personnes vraiment engagées dans leur rôle de citoyen.
Alors, engagé dans son rôle de citoyen, certes, personne déterminée, mais il faut aussi des personnes qui connaissent un peu un certain nombre de secteurs, notamment qui relèvent des politiques municipales et des services à fournir aux concitoyens. Et est-ce que cette liste, justement, elle est suffisamment large pour couvrir l'ensemble des domaines d'activité d'une commune, voire d'une communauté d'agglomération?
Alors, sur notre liste, on a des gens qui sont issus de secteurs socio-professionnels assez variés. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont issues des quartiers, Nous avons des personnes qui viennent de secteurs résidentiels classiques, des personnes qui vivent dans l'hypercentre de Limoges. On a, donc ça c'est pour les lieux de résidence, hein, bien sûr, mais si on prend les profils socio-professionnels, on a des gens qui sont dans la vie active sur divers domaines, hein. On a dans notre liste des étudiants, un médecin, on a des professionnels de la santé, on a des professionnels du transport notamment, on a des professionnels de divers secteurs. Donc ce sont des gens qui connaissent leur secteur, pas toujours à des postes de très haute responsabilité, mais qui connaissent le secteur concret, et notamment les réalités du terrain, du quotidien. Ce qui peut avoir du sens lorsqu'on est face aussi à des techniciens qui vous disent « on ne peut pas faire comme ci, on ne peut pas faire comme ça ». Bon, avoir la personne qui connaît le concret et le quotidien, ça peut aider.
Si je peux me permettre, j'ai une petite question sur la liste. Vous la décrivez comme, dans des choses que j'ai pu lire en tout cas, vous la décrivez comme la seule liste non partisane et d'initiative civile. Comment vous pouvez assurer que vraiment vous n'êtes proche d'aucun parti politique, sachant que certaines idées sur votre programme peuvent justement se rapprocher de différents partis
Alors, la question de l'idée. Si vous avez interrogé d'autres listes présentes sur cette élection municipale, vous avez dû vous apercevoir que certaines idées sont assez communes selon les listes, et parfois selon les listes étiquetées de gauche ou étiquetées de droite. Ce qui est en fait la démonstration que notre démarche est une démarche qui est réellement non partisane, parce que précisément ce que nous cherchons c'est l'idée, sans nous soucier de l'endroit d'où elle vient. Donc de ce point de vue là, non, effectivement nous ne sommes pas dans un positionnement partisan, ni dans un positionnement d'étiquette.
Alors après, l'idée, il faut passer à la phase de réalisation. Est-ce que vous avez, n'ayant pas été élu à Limoges, est-ce que vous avez une bonne idée des finances communales aujourd'hui et des difficultés que rencontrent plus généralement les collectivités locales dans le financement de leurs politiques publiques ?
Il me semble que c'est quand même quelque chose d'assez régulièrement mis en avant par des médias comme le vôtre, par exemple. On a une idée de la difficulté que ça représente. On a aussi surtout une idée, quand on écoute un tout petit peu nos concitoyens, de quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est stop sur l'impôt. Faut se calmer sur ce côté-là. Donc la question du financement et des possibilités de financement par ce biais-là, clairement, on sent qu'on est arrivé au bout de quelque chose quand on écoute un tout petit peu les Limougeaux.
Et pourtant, les impôts ont considérablement augmenté à Limoges depuis une dizaine d'années.
C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est une possibilité de financement qu'on ne va pas nécessairement avoir encore sous le coude, quoi.
Est-ce que ce n'est pas une idée trop facile que de dire stop à l'impôt ? Est-ce que la problématique, c'est pas davantage quoi faire avec l'impôt ?
Alors, donc moi ce que je vous ai dit, c'est ce que l'on entend de nos concitoyens, c'est stop à l'impôt. Donc après, toute la question c'est quelles vont être les priorités, quelles seront les choses à mettre en œuvre en premier, donc à quoi servira l'argent d'abord, puis après on voit ce qui reste et on voit ce qu'on peut faire d'autre. Donc c'est la notion de priorité qu'il faut sans doute mettre en avant.
Alors justement, vos priorités, on peut peut-être aborder aujourd'hui le fond du programme, peut-être sur deux parties. La première partie sur vos priorités pour mieux vivre ensemble, pour mieux bien vivre ensemble.
Oui. Alors sur la question de bien vivre ensemble, il y a forcément cette question de la citoyenneté et de se sentir impliqué dans la vie de sa ville. Aujourd'hui, on a des instances qui sont des instances qui font partie du paysage politique. On pense au conseil de quartier, on pense au conseil citoyen également. On pense donc à cette instance qui a été mise en place par le maire précédent et qui ne correspond pas tout à fait à ce que nous avions envisagé. Tous ces éléments-là existent, mais ne sont peut-être pas nécessairement utilisés de la façon la plus efficace possible. Donc déjà, une des priorités serait de remettre du lien entre toutes ces instances-là. En particulier, écouter vraiment les remontées des conseils de quartier, ça pourrait être quelque chose d'utile.
Ça veut dire que vous laisseriez en place ces ces instances ou vous les feriez
forcément
évoluer ?
Alors, oui. Forcément, elles restent en place parce qu'elles sont cadrées aussi par des textes, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec ce qui existe.
En revanche, on peut en supprimer et puis en modifier certaines.
Alors, en revanche, ce que l'on peut surtout faire, c'est réfléchir à quels sont les échelons, à quelles sont les étapes de la prise de décision publique qui ne sont pas encore suffisamment mises en lien entre les services techniques et les citoyens. Pour nous, l'un des éléments qu'on identifie, un élément clé à mon avis de la mise en lien, c'est ce moment de la prise de décision publique qui se passe en amont des commissions municipales. Vous savez, hein, la décision municipale, elle est prise, effectivement, elle est votée en conseil municipal, mais elle est préparée en amont par les commissions. Et en réalité, lorsque les dossiers arrivent en commission, ils ont déjà été très fortement travaillés par les services techniques et en général par l'élu de référence. Donc nous, c'est cette étape-là qui nous intéresse, cette étape tout à fait primordial, de se dire, au moment où un élu et des services techniques commencent à préparer un dossier, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire intervenir des citoyens à cette étape-là ? Non pas de façon, en termes de prise de décision, parce que ce n'est évidemment pas possible.
Mais de proposition.
Mais en termes de dialogue. De dialogue. Parce que si on avait eu une phase de dialogue véritable, entre les habitants de la cité d'Autry, par exemple, et les services techniques, au moment où ils ont perdu leur ligne de bus, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça, par exemple. Et on pourrait sans doute prendre d'autres exemples pour montrer à quel point ce moment-là de la prise de décision est un moment clé pour remettre du dialogue avec les citoyens.
Je reprends cette idée de dialogue avec les citoyens, pardon. Vous soutenez le concept de votation, c'est-à-dire questionner les habitants sur la mise en place de grands projets. Concrètement, comment ça se met en place sur une ville comme celle de Limoges ? Est-ce que c'est un référendum ? Est-ce que c'est des gens qui font du porte-à-porte ?
Alors, la question, c'est celle des outils que l'on propose pour établir la réflexion. Il est évidemment pas question de proposer de but en blanc une question à laquelle les gens vont devoir répondre sans avoir nécessairement eu les outils pour réfléchir. Donc là, tout le sujet, ça sera celui du déploiement des outils de réflexion, la mise à disposition par les divers supports. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas nécessairement accès à un smartphone, mais enfin, il y a quand même aussi ces outils-là qu'il faut utiliser. Donc, une diffusion de réflexion multi-support, mais effectivement, on finit par arriver sur la question, typiquement, si on parle du projet Beaublanc, la question aurait pu être, souhaitez-vous que le projet en l'état, qui va coûter tant, dans telles conditions, sur tel délai, souhaitez-vous que ce projet soit mis en œuvre ou pas ? Donc en fait, une question, elle n'arrive pas là comme ça, de but en blanc, depuis le haut, c'est elle arrive après toute cette phase d'échange, de consultation et de mise en avant d'un projet, pour pouvoir ensuite avoir une question posée de façon intéressante.
Alors si on applique la méthode, il faut quand même avoir un certain nombre de priorités, parce que tout ne peut pas se faire, on ne peut pas lancer des discussions tous azimuts dans tous les domaines. Quels sont les domaines qui vous paraissent aujourd'hui absolument prioritaires pour faire l'objet de ce type de concertation, réflexion collective, etc. etc.
Alors sur la question de la concertation, parce que les priorités sur la concertation et les priorités globales se recouvrent, mais pas toujours. Sur la question de la concertation, pour moi, l'une des premières questions à poser, ça serait celle de la gratuité des transports. Parce que c'est un enjeu qui a questionné beaucoup le personnel politique ces derniers mois. Ça a fait l'objet d'une expérimentation en particulier ces derniers mois sur les week-ends. Donc, quand on en discute entre nous, même à l'intérieur du groupe, on s'aperçoit qu'on n'est pas toujours d'accord sur la nécessité ou non de cette gratuité. Ce qui signifie que nos concitoyens ont peut-être des avis très partagés. Et donc, on ne prétend pas, nous, arriver avec un avis en disant « voilà, c'est la gratuité » ou « voilà, c'est hors de question qu'il y ait de la gratuité ». Nous, ce n'est pas notre objet. Notre objet, c'est de dire sur un sujet qui est tellement impactant, en termes de finances publiques en particulier, il faut demander aux Limougeaux ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est une orientation budgétaire qu'ils sont prêts à accepter ou pas ?
Oui, mais en matière de transport public, certes, on peut parler de gratuité, mais la problématique est-elle vraiment la problématique de la gratuité ou est-elle celle du service fourni à la population ? Je m'explique. N'est-ce pas davantage un problème de régularité, de cadencement des transports publics qu'un problème de gratuité du ticket d'accès au service des transports.
Alors, je pense que si vous posez la question, parce que vous m'avez demandé sur la votation, donc si vous posez la question aux gens, êtes-vous d'accord pour qu'il y ait plus de cadence, plus de fréquence et un meilleur maillage des bus, je pense qu'ils vous répondront tous oui. Donc je ne suis pas certaine que ça soit cette question-là qu'il faille poser en termes de votation. En revanche, que ça soit une priorité de retravailler le maillage, de faire en sorte que dans le territoire, on ait accès à des bus de façon plus fréquente et sur des horaires plus étendus, ça c'est prioritaire, mais ça ne fait pas l'objet d'une votation à mon sens. C'est parce que c'est une évidence qu'il en faut plus et mieux.
D'accord, donc a priori...
Votation plutôt sur la gratuité.
D'accord, après la problématique, c'est une problématique de financement de l'extension des horaires et l'extension du territoire à desservir, évidemment. Autre priorité que les transports publics, pour vous ?
Alors, pareil, sur la question, sur le cadrage de la question, c'est priorité par rapport à la votation ou priorité d'une manière globale ?
Non, par rapport à une politique publique que vous souhaiteriez mettre à l'ordre du jour d'une votation, pour en termes de priorité de politique publique.
D'accord. Alors, sur la question des votations, probablement qu'un projet comme le BHNS mériterait d'être soumis.
Ouais. BHNS, s'il vous plaît.
VO, pardon.
Pas d'acronyme.
Le bus à haut niveau de service.
Merci.
Donc voilà, pour moi c'est pareil, ça fait partie des projets qui mériteraient d'être retravaillés en amont pour parvenir à soit le repenser, soit l'améliorer, soit carrément l'abandonner. Et là, c'est pareil, cette question-là mériterait d'être posée. Parce que quand on a enclenché autant d'études, quand on a enclenché autant avancé sur un sujet comme celui-ci, on ne l'abandonne pas sans poser la question aux gens et on ne le modifie pas sans aussi poser la question.
Mais il y a un certain nombre de concurrents de candidats qui proposent un abandon pur et simple.
Oui, parce qu'ils répondent aussi, à ce qu'ils entendent un peu partout, c'est-à-dire on pense à la pétition du côté de la Mauvandière, on pense aux reproches qu'on entend du côté Cité d'Autry, on pense au secteur Marceau qui dit mais nous on n'est pas forcément correctement raccordés dans ce projet. Donc effectivement il y a des reproches qui remontent de partout, mais ces reproches-là signifient-ils qu'il faut absolument abandonner le projet, ou bien signifie-t-il qu'il faut le retravailler ? Moi, je crois qu'on peut pas avoir fait autant de projections et autant de travaux préparatoires pour dire tout simplement on jette aux orties, c'est pas possible. En revanche, dire on a entendu qu'il y a un problème et qu'il y a même plusieurs problèmes sur plusieurs secteurs, donc on retravaille. Et maintenant que le projet est retravaillé, qu'en pensez-vous ? Il me semble que c'est faire davantage confiance à nos concitoyens.
Alors. Continuons à essayer de faire confiance en l'intelligence collective. Passons à un autre domaine. Par exemple, la question des équipements publics et des projets qui sont en cours. On pense à Beaublanc.
Là, pour le coup, il y a beaucoup de financements qui ont déjà été engagés. Donc là, c'est une question...
Ou d'autres. Hein, est-ce que, de votre point de vue, il y aurait des équipements publics qui pourraient être prioritairement mis à réflexion de ce processus d'intelligence collective ?
Alors, dans l'immédiat, je crois qu'il y a surtout la gestion du quotidien aussi à envisager. Donc,
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a aussi tout l'entretien des bâtiments publics, il y a toute la rénovation à faire, la rénovation énergétique, faire en sorte que on ait une ville qui soit au point au niveau notamment de l'agenda 2030. Enfin, c'est ces objectifs-là, si vous voulez, je ne crois pas qu'il faille les mettre à l'ordre du jour d'une votation citoyenne, d'autant que là, on en a déjà deux. C'est-à-dire qu'on a déjà 2 ou 3 ans de travail en termes de votation. L'idée aussi, c'est de se dire la votation, elle doit aussi intervenir sur tout grand projet qui n'a pas forcément été abordé en 2026 et puis qui interviendrait en cours de route. Donc est-ce que, sachant que ça n'a pas été l'objet de la municipale en 2026, si jamais il y a quelque chose qui arrivait en cours de route, il est évident qu'on ne peut pas juste lancer les choses comme ça, il faut aussi poser la question en amont.
Alors il y a une grosse question qui est une question devant laquelle il y a un problème devant lequel se trouvent la plupart des villes moyennes, hein, c'est celle de la revitalisation des centres-villes. Et Limoges, on le voit ici tous les jours ayant des studios en centre-ville. Hein. Est-ce que cette problématique fait l'objet d'une réflexion chez vous ?
Oui, la question de la revitalisation des centres-villes, en fait, c'est une question plus globale qui touche Limoges dans son ensemble. Revitaliser les centres-villes, c'est une problématique que rencontrent toutes les villes de notre taille, en réalité. Et donc, la question qui se pose pour Limoges plus particulièrement, c'est comment fait-on revenir à Limoges suffisamment d'emplois pour qu'il y ait suffisamment de monde qui ait envie de venir en centre-ville l'après-midi. Parce que revitaliser un centre-ville, ça passe notamment par une politique de transport en commun plus efficace, plus pertinente, ça sans aucun doute, mais ça passe aussi par le fait qu'il faut que les gens aient des dépenses à faire en centre-ville. Si vous avez des gens qui sont dans la galère ou une perte d'emploi sur le secteur, forcément que le centre-ville ne peut pas vivre correctement dans une ville qui, par ailleurs, n'est pas florissante.
Une ville qui a perdu plusieurs milliers d'habitants depuis le dernier recensement et qui a perdu son rôle surtout de capitale régionale.
Oui, tout à fait.
Lucie ?
Rien à voir. J'aimerais aborder un petit peu le volet sécurité, parce que j'ai vu dans votre programme qu'il y avait en tout cas l'ambition de limiter, voire d'arrêter les rodéos urbains, qui ont quand même été une grande question ces derniers mois sur Limoges. L'idée, c'est quelles sont les mesures concrètes que l'on peut prendre pour justement les limiter ou les voire les arrêter carrément.
Alors, aujourd'hui, il existe des outils concret. Il s'agit peut-être d'augmenter les possibilités de confisquer, par exemple, les engins qui servent au rodéo urbain. Une des pistes peut-être aussi, ça serait de travailler sur l'éducation, le rapport, le lien, donc remettre aussi des éducateurs de rue, remettre des gens qui fassent le lien et le dialogue auprès de cette jeunesse qui en fait vient s'amuser aussi. Donc la question, c'est trouver le juste moyen, le juste milieu entre confisquer les véhicules et faire en sorte que tout comportement dangereux cesse, parce que ça c'est insupportable et intolérable, et faire en sorte d'essayer de trouver aussi les moyens d'orienter vers d'autres moyens de s'amuser, tout simplement.
Marie Desferluc, je pense que ici, où les auditeurs qui nous écoutent ne pensent pas foncièrement que vous allez être maire de Limoges, mais pardonnez-moi de vous ramener à certaines réalités, mais en tous les cas, peut-être que vous aurez l'occasion de convaincre un certain nombre de candidats d'appliquer éventuellement votre méthode. Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes prête à donner des consignes de vote de second tour, ou éventuellement de faire une alliance de second tour avec une liste ou un rassemblement de listes?
Alors nous, notre positionnement, il a toujours été très clair, c'est de dire nous voulons peser. La dernière fois, à 4%, effectivement, c'était un score qui était le témoin de quelque chose, mais qui ne permettait pas de peser sur un second tour. Aujourd'hui, nous, ce que l'on demande aux Limougeaux, c'est de donner les moyens à des gens qui sont absolument déterminés à faire entendre une voix différente, et nous donner les moyens de se faire entendre, c'est nous donner les moyens d'atteindre 5% ou plus. Dans cette situation-là, l'engagement que nous prenons, c'est de travailler avec ceux qui nous donneront les moyens concrets de travailler. C'est-à-dire que nous exigerons, en fait, des garanties que nous pourrons effectivement travailler. Donc, ça veut dire que nous n'excluons, en fait, aucune alliance de second tour à partir du moment où on a des garanties à la fois sur le fond et sur les moyens qui seront donnés pour nous de nous dire oui, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, en particulier sur l'histoire des commissions et du dialogue avec les citoyens à ce niveau-là.
Même avec une liste Rassemblement National ?
Jusqu'à présent, ces gens-là n'ont pas donné le moindre signe d'intérêt pour une démarche comme la nôtre. Donc je doute que ça soit l'objet.
Marie Desferluc, on vous remercie d'être venue à nos micros et on vous espère en bonne situation de peser donc après le premier tour pour un second tour. À bientôt.
Merci, à bientôt.
On clôture cette émission avec le titre choisi par Marie Deferluc, Pluie d'été, de la chanteuse Agathe, une jeune artiste locale passée par The Voice.
Ne ferme pas tes yeux, ne respire plus, écoute. Sur nos jours heureux, tomber la pluie du mois d'août. Nos deux corps, encore brûlants, entre deux mondes en suspens, dans un dialogue silencieux, après cet te danse dans les cieux. Et si je restais là encore une nuit, me ferais-tu une place au creux de ton lit? Est-ce que c'est bien ou bien mauvais d'avoir osé vouloir goûter à ta chair et à ton âme, d'avoir enfin baissé les armes? J'aimerais
Objectif municipal, le rendez-vous des candidats face aux journalistes de nos rédactions.